Oui, au Cachin Oriental. J'ai reçu totalement cette idée.
Moi, c'est Céline de Lukumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux habits de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix, qui vous accorde la parole. Le projet de loi portant répartition des sièges aux élections provinciales, municipales et locales a été rejeté en seconde lecture au Sénat alors qu'il avait été adopté à l'Assemblée nationale. Certains observateurs estiment que ce rejet prolonge une fois encore le mandat des sénateurs au-delà des délais constitutionnels. Une autre opinion pense plutôt que ce rejet de la loi portant répartition des sièges aux élections municipales et locales se justifie suite à la surséance par les gouvernements congolais du décret du Premier ministre portant création de nouvelles villes et des communes avant l'enrôlement des nouveaux majeurs. Comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081-890-6315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Notez que Hippolyte Kapanga assure bien entendu la mise en onde de ce programme sous la réalisation de Pierrot et la Mégie. Ce programme vous est coordonné et présenté par J.R. Lugembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lugembo.
Nous avons en premier Maître Likonda qui est à Kinshasa. Et c'est avec lui que nous allons ouvrir ce débat. Maître Likonda, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci de participer à ce débat citoyen. Comment vous commentez cette actualité?
Eh bien, merci. Je précise d'abord en disant que les électeurs des sénateurs sont les députés provinciaux. Leurs électeurs ne seront pas sortis des élections locales. Deuxièmement, la séance du Conseil du Premier ministre ne peut pas influencer le travail du Sénat, en tout cas pour un Sénat responsable. Mais par rapport au vif du sujet, je pense que l'attitude adoptée par les sénateurs congolais crée une nouvelle contrainte pour la séance. Ils avaient tout le pouvoir d'amender, de modifier, de changer les choses dans ce projet de loi et de les rejeter totalement. Et puisque ce projet de loi est d'une importance capitale pour l'élection urbaine, municipale et locale. Aujourd'hui, la CENI serait obligée de sursoir ou bien de retarder le processus électoral au pays, étant donné que les élections locales constituent les prémices du calendrier électoral global. Et lorsque les prémices sont biaisées, on ne peut pas s'attendre à des bonnes conclusions. Et donc aujourd'hui, l'avenir des élections devient de plus en plus hypothétique à cause de cette attitude des sénateurs. Pourquoi je le dis? C'est parce que les élections locales constituent le socle même de la démocratie et du développement au niveau de la base. On ne peut pas aspirer à un développement de la RDC sans pouvoir tester les effets des institutions démocratiques crédibles ici des élections.
Est-ce que Maître Likonda, vous avez suivi l'actualité? Pour quelles raisons le Sénat a pu rejeter ces projets de loi?
J'ai suivi un sénateur sur vos antennes. Il a dit que le Sénat n'a fait que suivre ce qu'a été la position de l'Assemblée nationale autrefois. Nous savons que l'Assemblée nationale avait renvoyé ce projet de loi au gouvernement. Mais jusqu'à tout le contraire, l'Assemblée nationale a déjà donné sa position positive par rapport à ce projet de loi. C'est pourquoi on attendait à
réélection.
Au niveau du Sénat.
Est-ce que vous savez également, Maître Likonda, que on doit procéder à l'enrôlement de nouveaux majeurs et cela pourrait intervenir qu'au mois de janvier 2016. Et je crois que d'aucuns redoutent déjà que cet enrôlement qui interviendra un peu plus tard puisse donner encore lieu à une autre session pour revoir la loi portant répartition des sièges. Parce que ça pourrait quand même, le nouveau majeur, aussitôt enrôlé, ça pourrait avoir une influence sur la répartition des sièges.
Mais ça ne serait pas la raison pour le Sénat de rejeter le projet de loi. Ça, c'est une question qu'on devrait traiter après. Que les sénateurs avaient un but pour la session extraordinaire. C'était d'éviter le pays une loi sur la répartition des sièges. L'enrôlement du nouveau majeur, c'est une autre question. Là, on est hors spectacle, hors scène. Mais il y a un autre problème assez délicat. Lorsque certains disent que les élections locales peuvent être organisées après 2016, mais la constitution du 8 février 2016, celle qui est révisée à ce jour, a donné le pouvoir à travers la loi sur la libre administration des provinces en disant que les budgets des ETD sont intégrés dans le budget des provinces. Mais depuis 2006 jusqu'à présent, chaque année, les ETD envoient leur budget au niveau des assemblées provinciales. Cela veut dire quoi? Les ETD devraient élaborer leur budget à leur niveau, et ce budget-là devrait être envoyé ici à l'Assemblée provinciale pour être intégré. Ce n'est pas aux députés provinciaux de débattre des budgets des ETD. Quand on dit qu'un budget intégré, c'est un budget qui a été déjà élaboré et dont l'autorisation a été donnée par les élus du peuple. Et pour l'état des îles, ce sont les conseillers, pour les communes, les conseillers communaux, les conseillers des secteurs, les conseillers chefferies. Tous ces gens ne sont pas élus jusqu'aujourd'hui. Il y en a déjà 10 ans passés. Bon, qui élabore les budgets des ETC et qui donne l'autorisation pour l'exécution des budgets? J'ai assisté à des plénières où les députés provinciaux s'entretuent pour essayer de réaménager les lignes dans le budget des ETC. Dans mon fief électoral, pour telle commune, le budget alloué ne correspond pas, il faut modifier. Il leur a donné le pouvoir de débattre des budgets des ETD. Voilà comment nous sommes en train de violer la Constitution et la loi.
Merci beaucoup, maître Likonda, et je crois qu'il y en a d'autres, en tout cas d'autres juristes qui souhaiteraient participer à ce débat citoyen qui tourne aujourd'hui autour de cette loi portant répartition des sièges aux élections municipales et locales qui a été rejetée en seconde lecture au Sénat alors qu'il avait été adopté à l'Assemblée nationale. Alors ça fait débat, certains observateurs estiment que ces rejets prolongent une fois encore le mandat des sénateurs. Au-delà des délais constitutionnels, une autre opinion pense plutôt que ces rejets pourraient se justifier suite à la surséance par le gouvernement congolais du décret du Premier ministre portant création des nouvelles villes et communes. Voilà, donc nous allons prendre un autre auditeur, c'est pas si maître Omar. Omar, vous êtes avec nous?
Excellentissime JR.
Voilà, vous avez la parle, maître Omar.
Merci beaucoup du verbe JR Lundimbo. Et je vous promets d'en faire œuvre utile. Je fais d'abord mienne les interventions pertinentes de mon prédécesseur. Et moi, je pense procéder par une approche méthodique. Premièrement, je voudrais réagir sur l'attitude du Sénat, deuxièmement, aborder la nécessité d'adopter cette loi urgemment, troisièmement, voir l'impact de la surséance du décret par rapport au vote de cette loi, et enfin, atterrir avec quelques recommandations. Premièrement, est-ce que le Sénat a bien agi?
Oui, alors Maître Omar, si vous pouvez peut-être dynamiser un peu votre voix là, parce que là, on vous saisit à peine.
Ah oui, maintenant ça va agir.
Oui, tout à fait.
Puis je disais, est-ce que le Sénat s'est bien comporté? Sous le plan juridique, nous sommes un état de droit, et permettez-moi de commencer par là, je pense qu'il n'y a aucun problème. Nous sommes dans un système bicaméral. Le système voudrait que chaque chambre puisse décider de façon indépendante. C'est quoi la nécessité de ce système? Et pour permettre au pays d'avoir des lois appropriées. Donc, selon la Constitution et le règlement régissant les Sénats, il est permis aux sénateurs de rejeter une loi lorsqu'ils estiment que cela n'est pas approprié. Là, les problèmes ne posent pas. Mais les problèmes se posent sur le plan politique, là où les gens sont en train de supputer. Moi, je pense que juridiquement, ça peut être valable, mais politiquement, les sénateurs doivent réfléchir. Parce qu'il y a des conséquences néfastes. Ne pas voter cette loi, pour le rejeter automatiquement sans réfléchir sur son urgence, pourrait entraîner la tardivité des élections, pourrait aussi entraîner les glissements, comme on l'a dit, peut aussi entraîner le non-respect du calendrier. Deuxième point, est-ce qu'il est important d'adopter cette loi? Oui, mettre les comptes à la vie. Si vous lisez les recommandations ou les contraintes de la CENI, parmi ces contraintes, il y a 7 lois qui ont été demandées d'être votées, sans lesquelles la CENI a dit qu'il ne réaliserait pas le calendrier électoral. Donc, ne pas voter cette loi, c'est bloquer la CENI. Donc, il est important et impérieux de se dépassionner, de se dépasser et d'apprécier l'urgence qui s'impose. Troisième point, est-ce que la suspension des décrets portant répartition des villes peut aussi avoir un impact sur cette loi ou a été la cause? Moi, je pense que ça peut être l'une des causes. Mais ce n'est pas une cause majeure qui peut freiner l'adoption de cette loi. Parce que dans l'architecture des normes dans un État, on a d'abord la Constitution, on a les traités internationaux, nous avons les lois votées au Parlement, ensuite les actes réglementaires. Les décrets étaient l'acte réglementaire. Il ne peut nullement influer l'existence d'une loi. Pourquoi on a saucé? Pourquoi on a suspendu? Il faut que le décret s'adapte à la loi. Si on estime que le décret qu'on doit mettre en place a des indifférences avec le projet de loi, automatiquement, au nom du principe de la légalité des actes réglementaires, il faudra que l'on suspende le décret et l'on puisse l'adapter à la nouvelle loi qui sera adoptée. Parce que dans l'architecture des normes juridiques, c'est la loi qui précède le décret. Enfin, J.R., puisqu'il y a un problème, moi je pense que la cause principale de ce que nous avons aujourd'hui, c'est la précipitation. Lorsque nous disons, nous crions la fois dernière, qu'il n'était pas bon de faire des choses de façon précipitée, l'on s'est moqué de nous. Moi je pense que la précipitation était à la base de tout ceci. Les découpages, on l'a voulu, je l'ai dit la fois passée. La décentralisation est un processus. Il est coûteux, il exige beaucoup de moyens. On ne l'a jamais refusé, il exige beaucoup de temps. Aujourd'hui, le temps donne raison. Donc, les gouvernements, prochainement, doivent cesser d'agir avec précipitation.
Alors, quel commentaire faites-vous, Maître Omar? C'est vrai, l'actualité a évolué. Jusque hier, dans la matinée, on était sur ces régies en seconde lecture, donc au Sénat, alors qu'il avait été adopté à l'Assemblée nationale. Mais dans la soirée, on aurait appris qu'il est convoqué une seconde session extraordinaire pour épuiser cette matière. Et pourtant, qu'il s'agisse de la Constitution ou encore du règlement d'ordre intérieur du Sénat, aucune disposition appelle à une seconde session extraordinaire.
Ah, le Sénat a décidé enfin de lever notre séance extraordinaire.
Oui, c'est ce que nous aurons appris, parce que là, finalement, c'est déjà décidé qu'il y aura une seconde session extraordinaire.
Si tel est le cas, je salue l'intelligence du Sénat. Comme je l'ai dit hier, sur le plan juridique, les réponses peuvent être justifiées. Sur le plan politique et actuel, il faudra s'adapter. L'intelligence, c'est pas seulement le fait d'avoir des diplômes et bien parler français. C'est aussi la capacité de s'adapter à toutes circonstances. Il y a un problème, on doit respecter le calendrier. On doit répondre aux contraintes de la CENI et au nom de ces contraintes qui sont démocratiquement fondées pour nous, je pense que les sénateurs doivent bien réfléchir, voter rapidement cette loi qui conditionne même l'existence et le déroulement heureux des élections. Je pense, à mon avis, c'est ma dernière recommandation de demander aux sénateurs, pour éviter un tentant glissement, la tardivité du cycle électoral et surtout le non-respect du calendrier qui est salutaire pour la nation congolaise, il est bien qu'ils procèdent à ce qu'ils ont promis et de le faire ou non. C'est ce Congolais, car en droit administratif, on dit, seul le salut du peuple est la loi suprême et c'est elle qui domine.
Voilà, Maître Sauville et Salumbashi, Maître Omar, nous vous disons merci d'avoir participé à ces débats et surtout d'avoir éclairé la lanterne des uns et des autres par rapport à votre position sur l'attitude du Sénat et puis le caractère urgent qu'on doit accorder donc à l'adoption de cette loi, d'autant plus qu'elle constitue également ou elle figure parmi les contraintes que en fait ont élevé la CENI pour la poursuite correcte de ces processus électoraux. Merci beaucoup et vous avez prodigué des conseils pour que dans l'avenir, les choses, en tout cas comme il s'agit de processus de décentralisation, il faudrait que les choses ne puissent pas se passer dans la précipitation. Voilà pourquoi nous tombons parfois dans ces principes de CRR et puis finalement ça tarde un peu les processus comme tout le monde le souhaite et le veut. Merci beaucoup, Maître Omar. Maître Sauville, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur J.R., bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio de la paix.
Vous avez la parole, Maître Sauvé.
Oui, par rapport au sujet, monsieur, à la thématique d'aujourd'hui, Monsieur J.R., je dirais que le projet de loi, pourtant, est tout à fait clair comme le nez au milieu du visage. Puisque ce projet de loi est porté sur la répartition des sièges aux élections municipales et locales. Et ce projet de loi a été rejeté. Ce n'est pas du fait que ce projet a été rejeté que les sénateurs cherchent la prolongation de leur mandat. Ce rejet ne peut en aucune seule fois impacter le déroulement des élections provinciales. Puisque les sénateurs sont toujours issus des élections provinciales. Ce sont des députés provinciaux qui sont électeurs des sénateurs. Alors moi j'estime que ça c'est un faux débat, je me juge en faux. Mais par rapport au rejet même, M. Gilles, il y a eu quand même un vote. Le Sénat a voté. Il y a eu 47 sénateurs qui ont voté pour, 13 abstentions et 2 qui ont voté pour un non. Alors moi j'estime que, je ne sais pas dans quelle république que nous vivons. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, sur 315 votants, il y a eu 313 qui ont voté pour et 2 députés seulement ont voté non, avec l'absence de députés de l'opposition, une grande majorité. Là, c'était passé, c'est ce qui est stipulé de la loi, c'est ce qui est de la Constitution, c'est la loi de la majorité. Maintenant, à la Chambre haute, il y a eu ce régime-là. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que nous pouvons vivre dans un pays-là, là où on ne voudrait pas qu'il y ait un débat contradictoire. Parce que si je dis ça, M. J.R., c'est quoi? Il n'y a pas loin qu'hier, mais la majorité présidentielle s'est réunie et elle s'est imprimée l'ordre au Sénat pour une seconde session extraordinaire qui doit commencer à partir de lundi. Mais moi, je ne comprends rien. Ou soit, c'est la majorité présidentielle qui est habilitée, selon la Constitution, de convoquer une session extraordinaire, ou soit il y a une institution habilitée à convoquer cette session extraordinaire. C'est à ce niveau-là que je ne comprends pas.
Oui, juste pour faire
dans une république dans la manière.
Oui, Maître Sauville, pour votre information, l'article 75 du règlement d'ordre intérieur du Sénat, donc évoquant le fonctionnement du Sénat, stipule que le Sénat peut être convoqué en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. Nulle part on a dit de la majorité ou de l'opposition.
Non, j'ai suivi l'information ce matin, même j'ai suivi l'information ce matin, les gens de la majorité présidentielle se sont réunis.
C'est juste une position,
qui a retenu cette initiative. Mais je sais que par rapport à l'article 75, je sais qu'il y a des personnes habilitées à convoquer cette session extraordinaire. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quoi? Là où il y a un débat contradictoire. Le vote s'est passé. Selon l'article 135, lorsqu'il y a une contradiction entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il faudrait qu'on puisse créer une commission paritaire. C'est à une commission mixte paritaire. C'est à travers cette commission mixte paritaire qu'on peut trouver, qu'on peut concilier les vues. Mais la manière dont on procédé ces processus au niveau de la vie démocratique du Congo, c'est ce qui me surprend un peu. Monsieur Gilles, je vous dirais encore que ce n'est pas la majorité présidentielle qui peut désamorcer cette crise. Puisque si nous regardons bien, les élections municipales, locales, mais ce ne sont pas des élections prioritaires. Parce qu'il n'y a pas loin qu'hier que j'ai suivi Martin Coubert qui a été voir la CENI. Il se pose le problème de décaissement des fonds. Il se pose le problème de financement. Mais alors, avec cette assemblée, cette session extraordinaire, qui va encore demander de l'argent qui peut servir à financer les élections, soit les élections provinciales et les élections législatives et présidentielles, moi je ne vois pas ce que le gouvernement peut perdre s'il décalait les élections municipales locales, comme il se pose beaucoup de problèmes, après les élections présidentielles. Moi, je filme que ça.
Voilà, je crois beaucoup de questionnements, oui, parce que là, il y a même un auditeur qui nous a écrit pour dire, ben voilà, une seconde session extraordinaire qui va se tendre pendant combien de temps, parce que dans les principes, une session extraordinaire doit se tenir dans les 30 jours, à commencer par la date du début, de comme c'est convoqué pour ce lundi, donc il faut compter à partir du 14 ou le 8, 14 ou 30 jours, ça fait jusqu'au 6 septembre, le 6 septembre, ça sera déjà à une semaine avant la rentrée parlementaire de septembre. Donc ça va se coïncider. Alors on ne sait pas quelle doit être la matière. Et pourtant, le règlement d'ordre intérieur du Sénat définit en cas de non-épuisement de matière, on doit renvoyer à la session ordinaire prochaine pour en fait prioriser cette matière-là. Bon, de toute façon, ce n'est qu'un débat. On va prendre un analyste politique qui va nous éclairer ou éclairer les uns et les autres. Maître Sonville, vous êtes à l'Ombachi. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Voilà, on va rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent également participer à ces débats en composant les 081-890-7315 pour leur intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous recevons en ligne Philippe Biouya, analyste. Professeur Philippe, vous êtes avec nous? Professeur Philippe Biouya, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de professeur. Voilà, les débats, comme je l'ai dit tantôt, tournent autour du projet de loi portant répartition des sièges aux élections municipales et locales, qui a été rejeté en seconde lecture au Sénat, alors qu'il avait été adopté à l'Assemblée nationale. Alors, certains observateurs estiment que ces rejets prolongent une fois encore le mandat des sénateurs au-delà des délais constitutionnels, parce que ça pourrait retarder le calendrier électoral. Une autre opinion pense plutôt que ces rejets de la loi se justifient suite à la surséance par les gouvernements du décret du Premier ministre portant création de nouvelles villes et communes. Voilà, on va prendre Maître Franck qui est en Bandaka. Maître Franck, bonjour.
Bonjour Maître Franck, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio de la paix. Merci pour la parole, c'est bien. Bien suivi le débat. Comme vous l'avez dit, je pense que si les sénateurs ont rejeté cette loi, parce que ce projet de loi contient beaucoup d'irrégularités. Il y a eu une mauvaise répartition des sièges. C'est pour cela que l'État a agi pour les rejeter. C'est un sujet que nous avons beaucoup intervenu par rapport au report des élections municipales et locales. Vraiment, je propose que les élections soient renvoyées en 2017. Les projets de loi jusqu'à présent posent toujours problème. Les gouvernements se sont rendus compte que c'est pour cela qu'il avait devoir de suspendre les décrets portant les partitions de nouvelles villes et communes. Vraiment, c'est pour que les élections, c'est le secteur municipal et urbain et le ministère local soient renvoyés en 2017.
Alors, on a discuté avec votre ligne, Maître Franck. Je crois qu'on va revenir à vous à des moments à l'autre. Le temps de retrouver professeur Philippe Biouya. Professeur, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Voilà. Aujourd'hui, on vient de suivre les auditeurs qui vous ont précédé d'ailleurs dans ces débats. Les sentiments qu'animent les uns les autres, donc en fait, c'est ces conflits qui semblent un peu être actuellement visibles entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et pourtant, les textes sont tellement clairs que ça ne pouvait pas en être un, ces conflits.
Ben, je crois que ce serait un conflit mal déplacé, un conflit qui n'a pas de place ni dans la logique du fonctionnement des institutions, ni dans la logique en fait de la configuration politique des forces sur ce terrain, ou même au sein du Parlement. Parce que l'enjeu de la question de la loi de la répartition de sièges, c'est les élections. Les élections, je crois, ça concerne tout le monde, et je pense que cette question fondamentale mérite un traitement particulier de la part de la CENI. Parce que je crois que toute l'agitation tient au fait que la CENI ne semble pas agir avec réalisme. Parce que les gens doivent avoir le courage de constater qu'on est déjà vraiment en retard de beaucoup de choses et que ce retard n'est pas causé en fait par les votes du Sénat et que le Sénat n'a aucun intérêt effectivement en tant que Sénat, en tant qu'institution, de faire bloquer les choses, de faire retarder les choses. Au Sénat, il y a la majorité présidentielle. Comme à l'Assemblée. Mais j'ai comme l'impression que si la majorité de l'Assemblée nationale pense de sa légitimité de faire des choses, elle devrait mettre aussi à contribution la majorité présidentielle qui est au Sénat. Quand la majorité devait indexer le Sénat, ils indexent qui? Le président du Sénat ou la majorité qui est majoritaire au sein du Sénat? Parce que si la majorité du Sénat semble agir à l'envers et à l'encontre de la majorité du Parlement, de l'Assemblée nationale, c'est que le problème est dans la majorité, le problème n'est pas dans le Sénat en tant qu'institution. Donc je le fais combat là, cette rivalité, il est en fait mal approprié.
Alors il y a une autre opinion qui pense plutôt que c'est régé de la loi portant répartition des sièges aux élections municipales et locales, c'est justifié suite à la surséance par les gouvernements congolais du décret du Premier ministre portant création des nouvelles villes et communes. Est-ce que vous partagez cet avis?
Non, le problème d'abord c'est quoi? C'est qu'à l'Assemblée nationale, lorsque la loi sur la répartition avait été présentée et ils l'avaient rejetée, ils avaient renvoyé ça au gouvernement. Et le gouvernement en fait est revenu avec un nouveau travail, mais l'Assemblée s'est refusée d'en débattre et ils ont décidé. Et ils ont voulu que le Sénat entérine le travail en fait de l'Assemblée nationale. C'était pas ça. Le Sénat a mis en place une commission spéciale qui a hier rencontré les rapporteurs de la CENI et aussi en fait les représentants du ministre de l'Intérieur. Et après échange, on en est arrivé en fait à dégager que le problème, on peut tout faire, on peut voter des lois, si le fichier électoral n'est pas fiabilisé, les élections ne seront pas crédibles. Et je pense que les sénateurs, dans leur majorité, ont voulu en fait des élections crédibles et ont voulu qu'on en travaille à fiabiliser en fait le fichier électoral en incorporant en fait le nouveau majeur. Alors, ils ont présenté cette situation à qui de droit. Mais on a voulu absolument que l'on vote. Et on a voté, ça produit ce que ça produit. Et je ne sais pas, à partir de ce moment-là, on s'en prend à qui. C'est lui qui veut fiabiliser, qui fait crédibiliser les élections et qui veut que les élections se fassent en bonne et due forme, ou ceux qui veulent absolument qu'on aille encore dans des élections qui ne soient pas crédibles, qui ne soient pas fiables et qui amènent encore des chaos électoraux. Si on veut répéter les cycles des chaos, on peut le faire, mais je ne pense pas que le Sénat ait agi par intention de bloquer ou de glisser, comme on dit. Non, on sort de proportions du jugement.
Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai, quelles sont les conséquences? Parce que d'aucuns redoutent que en rejetant et après quelques temps, qu'on ait convoqué une autre session extraordinaire. Je ne sais pas si c'est constitutionnel aujourd'hui.
Ben, je crois que c'est pas un problème de constitutionnel ou pas constitutionnel. Je crois que c'est l'impression, justement, que l'on donne que le Sénat aurait un agenda caché qui, en fait, pour en fait sauver en fait la face, pour montrer que le Sénat n'en est pour rien, qu'il a été convoqué en fait une session de 3 jours pour essayer de faire une pédagogie pour voir si on peut dégager une majorité qui peut voter en fait cette loi-là. Parce que c'est pas donné. Parce que ces gens-là, ils vont venir et puis il faut négocier avec eux pour voir s'il y a en fait des éléments qui peuvent permettre que l'on vote autrement.
Mais politiquement parlant, une loi qui a été déjà rejetée, on va convoquer une autre session extraordinaire pour un passage en force, passez-moi les termes, pour que finalement tout le monde, qu'on puisse réunir absolument la majorité. Est-ce que vous... Comment jugez-vous cela politiquement?
Bon, mais je crois que comme tu dis, bien, c'est politiquement qu'il faut en juger. Je pense que ici, là, je crois que la logique institutionnelle, vous pensez que après ce qui s'est passé, parce que c'était pas volontaire, c'est arrivé, et on devait trouver ça comme normal, et on devrait s'attendre à ce qu'à la session ordinaire, on commence par ce dossier. Mais je pense qu'il faudrait regarder du côté de la CENI. Si c'est la CENI estime que sans cette loi-là, il ne sait pas organiser les élections, et aussi les politiciens qui pensent en fait utiliser les élections pour peut-être régler des comptes à d'autres. Nous avons deux problèmes. Il y a la culture électorale des politiciens dans l'ensemble. Donc les gens veulent utiliser des élections non pas pour en fait renouveler la classe politique, pour mieux gérer le pays. On veut utiliser les élections en fait pour régler des comptes, pour éliminer certains concepts. Donc tant que cette culture-là prévaudra, je crois que moi, je n'ai pas de réponse à vous donner. Parce que tout ce que l'on veut faire, le Sénat veut se donner une conscience tranquille, le Sénat veut démontrer qu'il n'y avait aucune intention, aucun agenda caché, et que ce qui est arrivé parce que ce jour-là, on a voté 2 lois. La loi sur les statuts des chefs coutumiers qui est passée, et la loi sur l'impatrie de ceux qui n'est pas passée. Donc ce n'est pas un problème d'agenda politique.
Et qui peut convoquer une telle session?
Mais vous l'avez lu tout à l'heure là, en lisant l'article 75 du règlement intérieur.
c'est-à-dire que ce qui convoque la session extraordinaire, c'est la nécessité. Mmh. Il y a nécessité, et cette nécessité, l'appréciation peut en être faite par le président du Sénat, peut en être faite par le bureau ou par un groupe de sénateurs.
Donc il n'y a pas violation de la Constitution à ce niveau, parce que la Constitution ne parle pas d'une seconde session extraordinaire dans un exercice parlementaire.
Bon, bah écoutez, je crois que la Constitution, lorsqu'elle n'interdit pas expressément en fait un geste, on peut supposer qu'elle l'autorise quelque part. Comme il n'y a pas une interdiction expresse,
on peut avoir
une action extensive pour justifier ça par la nécessité. On a besoin d'une pédagogie, on a besoin d'apaiser en fait, parce que tu vois, le travail du Sénat, le Sénat c'est la chambre haute, la chambre des sages, le Sénat travaille à sauver en fait ce que l'on peut appeler à sauver l'équilibre institutionnel. Mais lorsque certaines personnes estiment que le Sénat en fait un peu trop, parce qu'il demeure dans la logique institutionnelle, alors il faut la République nous appartient de tout ça, hein, il faut pas que on aille en guerre pour rien là.
Voilà, on vous garde encore en ligne, professeur Philippe Abiria. On va repasser de l'autre côté du standard pour retrouver Maurice et puis monsieur Odiane, qui est député provincial à Issiro, 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Chaque jour, la fréquence de la TNU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour des provinces, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Voilà Maurice, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour Maurice.
Bonjour Jean-Louis, bonjour, salut tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors comment commentez-vous cette actualité?
Je pense que nous avons reçu dans cette émission l'honorable le tour de la Jécois la semaine passée. Et lors en fait du débat, cet honorable a donné en fait l'économie de cette loi. Il nous a expliqué en fait une certitude atténuée sur l'opportunité et sur certaines irrégularités relevées dans cette projet de loi. Mais aujourd'hui, les gens disent que le Sénat voudrait un glissement. Moi, je pense que le Sénat n'est même pas concerné par ces élections parce que le Sénat a déjà une loi portant répartition des sièges de 2006 sur laquelle en fait, on pouvait organiser des élections provinciales et permettre à ce qu'il y ait un renouvellement en fait, du Sénat. Je pense que ça n'est pas lorsqu'on dit que c'est le Sénat qui recherche à travers en fait, ce refus ou ce rejet le glissement. Mais le problème, c'est une poursuite, comme je l'ai toujours dit, parce que les gens pensent toujours que lorsque nous intervenons, c'est comme si nous sommes contre un régime. Mais nous disons toujours que les faits prouvent suffisamment que ce qui se passe dans ce pays, c'est vraiment, c'est ce que les gens disent, les autres disent que c'est vraiment se diriger lorsqu'on dirige un pays par défi, et les conséquences sont celles-là, ce sont les plus pérennes que nous sommes en train d'observer.
Oui, Maurice.
Un parti politique, un grand parti politique, qui a instruit ce député pour avoir, en fait, refusé de ne pas obtempérer à cette instruction, de n'aller pas, en fait, siéger dans cette question de zone. Cette loi a été décriée par tout le monde. Et on a dit que non, par rapport à l'opportunité, au regard du temps qui est parti par la Constitution, organiser ces élections ne devait pas nous permettre, ça ne va pas nous permettre plutôt d'organiser les élections qui sont les plus importantes. Je ne dis pas que ces élections ne sont pas importantes, mais au regard du temps, de la complexité même d'abord de ces élections, et des problèmes en fait des territoires en fait national, on ne saura pas organiser dans les temps et parties ces élections. Alors, nous avons reçu les explications claires de M. Lutumbula qui est passé dans notre émission, qui a éclairé suffisamment l'opinion nationale. Mais lorsqu'aujourd'hui, ce régime insiste et voudrait à tout prix qu'on puisse organiser ces élections locales, et en même temps, il nous dit qu'il n'y a pas de moyens.
Maurice, nous sommes dans la loi de la majorité, nous sommes en démocratie, cette majorité a voté pour cette loi au niveau de l'Assemblée nationale, et la même majorité, on la retrouve également au Sénat, mais on n'arrive pas à comprendre, la même majorité rejette cette loi. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Mais y a, au Sénat, il y a une majorité patriotique, une majorité raciste. Et là-bas, il y a une majorité en fait factice. Ce sont des gens en fait qui sont là juste pour attendre que des mots d'ordre. Raison pour laquelle nous disons que cette Assemblée nationale a déçu des gens et tout le monde s'attendait.
Est-ce que vous ne craignez pas, vous ne redoutez pas Maurice comme les autres, qu'aujourd'hui qu'on assiste à un nuage entre dans les deux chambres du Parlement qui sont en tout cas sur le plan textuel censés collaborer? Parce qu'il y a des limites de responsabilité.
La collaboration doit être de manière rationnelle. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation. La situation se présente de la manière que si aujourd'hui on doit vraiment tenir cette élection, de ces élections locales, il y a des préalables. Et ces préalables, pour les rencontrer, ça demande du temps et ça demande nécessairement des moyens. Or, ces moyens, nous ne les avons pas. Et le temps, nous n'avons plus ce temps-là. Alors, il nous reste que quelques mois pour organiser les élections. Parce que nous devons organiser nécessairement les élections dans les délais constitutionnels. Alors, lorsqu'on nous amène cette loi-là, et ça demanderait qu'on puisse trouver des moyens, qu'on puisse doter sur le plan logistique toutes les circonscriptions. Il y en aura plus de millions. Et vous savez que dans certains points où il y aura des circonscriptions électorales, moi, maintenant, vous ne pouvez pas accéder. Et tout ça, ce sont des situations qui provoquent juste pour justifier les chaos. Alors, c'est ce que nous disons qu'on doit éloigner cette loi-là. Et je félicite le Sénat. Et je pressens que même si on organise encore une session extraordinaire, le Sénat, tel que nous le connaissons, ne va pas en fait contempler à cette loi de plus fort qui dirige le pays séparé.
Merci beaucoup, Maurice. Député provincial Paulin, vous êtes avec nous, Paulin Odiane, hein, vous êtes député provincial à Issirou. Vous êtes avec nous, bonjour Paulin.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, par rapport à, vous avez suivi vos prédécesseurs, comment vous commentez cette actualité?
Merci beaucoup JR. Je crois que le Sénat a un règlement intérieur. Et ce règlement intérieur du Sénat dit clairement que si l'ordre du jour de la session extraordinaire n'est pas épuisé dans les 30 jours, celle-ci est clôturée d'office, c'est-à-dire clôturée. Donc, la session extraordinaire qui était convoquée, c'était pour 36 jours. Et puis, on a clôturé cette session. Juridiquement, moi, je ne vois pas de quelle manière le Sénat peut encore être convoqué à session extraordinaire. Moi, je ne vois pas. Deuxièmement, les élections locales, municipales, ainsi de suite, on va les organiser comment? Et pour quelles circonscriptions? Parce qu'on a... Il semble que l'arrêté est retiré de créer de nouvelles villes.
Les nouvelles villes sont
retirées. Oui, c'est retiré. Où est-ce qu'on va organiser ces élections? C'est sur quel espace géographique? Et troisièmement, le Congo, c'est notre pays, nous tous. Que ce soit les sénats, les sénateurs, les députés nationaux, la population, c'est pour nous tous. Nous devons apprendre à organiser proprement tout ce qui engage la vie de toute une nation. La précipitation ne peut pas résoudre le problème. Ces élections peuvent être décalées après les élections présidentielles, si réellement nous avons l'amour de notre pays. Mais si certains pensent que le vote de cette loi va nous amener au paradis, mais moi personnellement je ne crois pas à cette thèse. Moi je crois qu'on puisse retarder ces élections, qu'on puisse organiser ces élections proprement et qu'on puisse déterminer les limites des nouvelles villes, y compris également les limites de chefferies et des nouvelles villes. Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons des conflits ici à Issirou, il y a une partie même de... Il y a un quartier qui est dans la chefferie d'un chef coutumier, mais qui ne veut pas que ça soit comme ça, qu'il veut à tout prix que le chef coutumier de sa chefferie reste là où il est. Mais là, comment résoudre ces problèmes? Est-ce qu'il faut aller par la force ou il faut sensibiliser les chefs coutumiers, sensibiliser la population sur cette situation?
Donc, si je comprends bien, honorable Paulin, donc après démembrement, il y a le chef lié d'une chefferie, donc c'est ça, qui se retrouve dans une autre province.
un chef-lieu d'une chefferie qui se trouve incorporé dans une ville, dans la ville.
Dans la ville. Alors le chef s'y oppose catégoriquement.
Il s'oppose catégoriquement. Mais est-ce qu'il faut aller avec précipitation, il faut l'aider à le faire comprendre ou à donner une solution qui va satisfaire tout le monde. C'était ça la question que nous nous posons.
Voilà.
Mais moi, personnellement, sur le plan juridique, je ne vois pas comment le Sénat peut encore convoquer une deuxième session extraordinaire. Et en même temps, je souligne à ce que le Sénat n'est pas du tout marchepied de l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire que non, l'Assemblée nationale a voté impérativement, il faut que le Sénat vote. Bon. C'est inconcevable. Et on peut se retrouver dans le cas des contradictions. Et même dans le cas des faits, le Sénat n'a pas voté, mais le Sénat a rejeté plutôt. Mais sur le plan juridique, si vous lisez la Constitution et les différentes lois de la République, il n'y a pas une solution. À ce moment, comme il n'y a pas une solution, on peut se référer à la Cour constitutionnelle.
Voilà, merci beaucoup, honorable Paulet Odiane. Nous rappelons que vous êtes député provincial à Issiro. Et là, dans votre intervention, vous avez beaucoup plus insisté sur le quatrième alinéa de l'article 75 du règlement d'ordre intérieur du Sénat qui dit « Si l'ordre du jour de la session extraordinaire n'est pas épuisé dans les 30 jours, celle-ci est clôturée d'office, exception faite de la session extraordinaire inaugurée de la législature. » Et dans les deux cas, les matières de l'ordre du jour restées en suspens sont examinées en priorité au cours de la session ordinaire comme arriéré législatif. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va prendre Maître Guilain avant de retrouver notre invité, professeur Philippe Babioya. Maître Guilain, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, J.R.
Vous avez la parole, Maître Guilain.
Ok, merci beaucoup. Je crois que vraiment, je suis un peu déboussolé par rapport à cette question. Parce que, ici, le problème se présente de la manière suivante. Une session extraordinaire convoquée au niveau du Sénat. Nous savons que quand nous prenons l'article 135, la loi, quand elle arrive au niveau du Sénat, c'est en seconde lecture qu'on est en train d'apprécier cette loi. Il y a deux possibilités. Ou soit la loi est adoptée, ou soit la loi elle est rejetée. Si elle est adoptée, c'est-à-dire dans les 6 jours qui vont suivre, ça sera transmis à la présidence pour sa promulgation. Mais néanmoins, le cas qui vient de se passer aujourd'hui, c'est un cas qui est atypique. Maintenant, il y a une question de droit. Si la loi a été rejetée à la seconde lecture, adviendra-t-il ? Est-ce qu'il y a-t-il possibilité, à travers le mécanisme constitutionnel, de convoquer une autre session extraordinaire, oui ou non ? J'ai essayé un peu de feuilleter la Constitution, je n'en ai pas trouvé. Parce que je sais, à mon humble avis, je sais que la loi ne vient qu'en seconde lecture au niveau du Sénat.
Mmh.
Si on ne vote pas dans le terme identique, à ce moment-là, on recourt à l'article 135. C'est-à-dire aujourd'hui, convoquer une autre session extraordinaire. Or, et pourtant, le Sénat n'agit qu'en seconde lecture. Est-ce que cette loi va-t-elle commencer au niveau de l'Assemblée nationale pour se retrouver au Sénat
dans
une situation qui est vraiment qui plonge la population
dans une confusion.
Une autre question, est-ce que le Sénat avait raison de rejeter la loi? Nous disons juridiquement, le Sénat avait tout le pouvoir de rejeter ou bien d'adopter. S'ils n'ont pas adopté aujourd'hui, il ne faut pas chercher de raison ailleurs, parce que les sénateurs ne tirent pas leur légitimité au niveau de cette loi. La loi qui vote les sénateurs, je sais que tout le monde le sait, comme moi, que c'est au niveau des élections provinciales. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, reconvoquer une autre session extraordinaire, c'est en d'autres termes qu'une façon d'imposer le Sénat de voter, d'adopter cette loi. En répondant, c'est une question juridique qui s'est posée. Je crois qu'il faut peut-être, ça c'est à mon humble avis, se soumettre à l'arbitrage, parce que c'est ça
l'arbitrage de la Cour constitutionnelle,
plutôt que de commencer des gesticulations qui n'ont aucun fondement dans la loi. Voilà un peu ma façon
Merci beaucoup, Maître Guilain. Merci beaucoup, Maître Guilain, d'avoir appelé dans la ville-province de Kinshasa, 081-890-6315 pour votre intervention directe, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Vous voulez dire une chanson à ceux qui vous sont chers?
un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ce cadre d'échange et partage citoyen. Nous avons en ligne professeur Philippe Biyoya, analyste politique. Il est avec nous pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Professeur, vous avez suivi cette longue deuxième série des auditeurs. Comment vous réagissez, et surtout par rapport à cette préoccupation directe de Maître Guilla?
Je crois que il a raison de présenter les arguments qu'il présente, mais le problème c'est que me semble qu'il ne s'agira pas d'une nouvelle session extraordinaire comme telle. Et je crois que le communiqué qui a circulé au Sénat reconvoque en fait la même session extraordinaire du mois de juillet. Et c'est peut-être qu'on voudrait, on parle peut-être du fait qu'au cours de cette même session extraordinaire.
Oui, est-ce que professeur, là, on ne tombe pas sur le jeu de mots, réconvocation de la même session, après qu'on ait déjà clôturé la session?
Bon, mais c'est là l'énigme. Celui qui a intérêt à comprendre, c'est comment concrètement, quels sont les fondements, à la fois
juridiques,
philosophiques, légaux, de la démarche. Je crois que la démarche procède, si on comprend bien, de la nécessité. Il y a comme un besoin urgent au niveau de ceux qui pilotent le processus. C'est pourquoi je vous ai dit au commencement que moi, je pense que on ne doit pas discuter de la sincérité des sénateurs, de leur engagement. On devrait demander à la Commission électorale nationale indépendante de s'assumer avec responsabilité, de faire preuve d'un bon leadership. C'est à la Commission nationale électorale de dire à tout le monde si réellement elle se sent capable d'organiser les fameuses élections locales, municipales et consorts à temps. Et pour que, en fait, qu'elle nous dise que si on ne vote pas cette loi aujourd'hui, ça va interférer sur le calendrier. Parce que tant que la CENI continue à dire à tout le monde, je veux organiser, eh bien, il entretient la confusion. Vous devez savoir que la majorité est sous pression. On l'a accusé peut-être de vouloir glisser. Et la majorité, je crois qu'elle est dans tous ces états, ne voudrait pas qu'on l'accuse en fait de glissement. La majorité voudrait bien trouver quelqu'un qui porte cette responsabilité de glissement sur un glissement. Je crois que le problème, c'est celui-là. Ce problème-là, c'est ce politique. Hein. Donc, politiquement, la majorité, c'est sans français. Alors, c'est possible qu'elle oublie en fait le fonctionnement normal des institutions et qu'elle mette pression sur le Sénat, sur le bureau du Sénat pour qu'en fait, il y ait des mouvements. Mais je crois que le vrai dénouement devrait venir de la Commission nationale la Commission électorale nationale indépendante, pour qu'elle pourra en fait aussi les centres de son indépendance dans cet arbitrage. Or, si elle n'arbitre pas, si elle se fait un CED, et si les jeux maintenant, c'est entre les forces politiques, c'est entre ceci, on vient de se demander s'il y a encore en fait un organisateur des élections. Parce que ces débats entre l'Assemblée nationale et le Sénat, en fait, démontrent que la CENI n'est pas en phase avec le processus, donc le processus est même plus en danger aujourd'hui qu'il l'aura été par le passé.
Voilà. On va prendre cette dernière série des auditeurs avec Félicia Kinshasa et Thierry Al-Bashi, et puis on reviendra à vous, professeur, pour la conclusion. Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio.
Après avoir suivi vos prédécesseurs, quel est votre point de vue?
Je suis étonné de voir que les gens ont juste tourné vers la nature juridique et cette question. Alors que c'est un problème politique. Donc, on peut tout aller plus loin encore pour m'accompagner avec.
Voilà, on a un petit souci avec la ligne de Félicien. Je crois que Félicien va prendre une autre position pour nous permettre d'avoir la fluidité des communications, parce que là, vous sortez vraiment avec des micro-coupures. On ne sait pas vous suivre intégralement et comprendre de quoi vous parlez. On va d'abord plutôt prendre Thierry, qui est à Lubumbashi, et puis on reviendra à vous, Félicien. Thierry, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Thierry. Voilà, dommage, on a des petits soucis avec la ligne de Thierry. Voilà, nous rappelons également à nos auditeurs, en tout cas ceux-là qui viennent à peine de nous rejoindre par rapport à ces débats, le projet de loi portant répartition des sièges aux élections municipales et locales a été rejeté en seconde lecture au Sénat, alors qu'il avait été adopté à l'Assemblée nationale. Certains observateurs estiment que ces rejets prolongent une fois encore le mandat des sénateurs au-delà des délais constitutionnels. Une autre opinion on pense plutôt que ces rejets de la loi se justifient suite à la surséance par le gouvernement du décret du Premier ministre portant création des nouvelles villes et communes. Alors comment vous commentez cette actualité? Vous pouvez donc nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 63 15 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Il y a nombreux qui nous ont écrit. Nous allons d'ailleurs découvrir vos messages avant de terminer cette émission.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo à une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, un reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Voilà, nous allons poursuivre. Il nous reste quelques minutes pour que nous puissions terminer cette émission. On va prendre un autre auditeur qui, voilà, on me fait signe que la ligne de Félicien s'est améliorée. Félicien, vous êtes avec nous?
Oui, avec vous.
Oui, allez-y.
Oui, je sais qu'il faut remonter à l'époque où il y avait la tentative de la révision constitutionnelle, article 230. Si il y avait une histoire, on trouvait qu'il ne pouvait pas compter sur cette voie à cause de l'aspect politique populaire qui payait.
Voilà, désolé.
C'est toujours dans l'air manche. Et si nous faisons l'évolution de la question, nous allons voir que tout ce qui s'est fait, c'est pour contrôler le fait et arriver au même résultat. Donc, nous n'allons pas parler de problèmes juridiques, et il avait raison, il n'avait pas raison, c'est un problème politique. Et tous ces gens-là, que ce soit les présidents, que ce soit l'Assemblée nationale, et que ce soit la CENI, ils sont dans un même chemin, ils veulent atteindre l'objectif, et que le fond d'arrêt, c'est l'existant. Alors, au lieu de faire du temps, moi, je leur conseille, au lieu de faire un passage à fond, en fond, que le politicien est peut-être autour d'une table, parce que ces élections, celles que nous sommes en train d'aller, c'est pas pour arriver à l'élection. C'est mettre autour d'une table, au lieu de faire des temps, c'est de la distraction qui
s'en va. Oui, mais Félicien, ça, je ne sais pas à quel niveau, quels sont les cadres juridiques dans lesquels on pourrait traiter tous ces éléments. On sait tout de même qu'au niveau de la CENI, il y a cette commission paritaire qui regroupe en son sein la société civile, la majorité et l'opposition, et toutes ces questions sont débattues au sein de cette commission. Je crois qu'il ne faudrait pas encore chercher un autre cadre juridique.
Non, moi, je vous dis qu'il n'y a rien qui est prévu. Moi, je vous dis que vous pouvez noter votre agenda aujourd'hui. On arrive à faire un résultat. Tout ce qu'on fait là, c'est ce qui est prévu.
Voilà, merci beaucoup pour vous. En tout cas, tout ce qui se fait, c'est l'objectif, c'est aller vers l'église. Thierry, vous êtes à Lubumbashi, on vous accorde également une minute. Thierry, vous êtes avec nous.
Oui, je voulais synthétiser. Il y a là un problème sérieux et le blocage est vraiment très récurrent. Parce que quand nous rentrons en 2013, avant que le pasteur Mulunda ne soit démis de ses fonctions, le pasteur Mulunda laisse une note technique que je vais lancer sur Internet où il attire l'attention du Premier ministre en ce qui concerne le décret d'application de la loi des entités décentralisées ainsi que la répartition des sièges. Le pasteur Mulunda insiste, il dit qu'il est donc impérieux pour le gouvernement de finaliser la mise en œuvre des textes sur les entités territoriales décentralisées et déconcentré. Il termine sa note en disant ceci. De ce qui précède, Il y a lieu de noter que l'administratif du temps demande que les activités liées à ces différentes élections soient lancées dans un meilleur délai. À défaut, le cycle électoral en cours, comme les élections de 2016, seront compromis. Faites à Lubumbashi le 23 avril 2013.
C'est une lettre officielle, un communiqué officiel ou confidentiel?
Une lettre officielle, une note technique signée par le pasteur Mulunda.
Mmh.
Donc là, moi, je conclue en disant que le Sénat tire le drap de son côté parce qu'ils sont en train de voir leur départ. Il y a déjà élection des gouverneurs. L'Assemblée nationale est en train aussi de faire des calculs pour voir comment le puissant va se passer.
Voilà. Donc, dommage, on ne pourra pas vous garder plus longtemps, Thierry, parce qu'on a plus assez de temps. On va prendre plutôt au professeur Philippe Bioya. En conclusion, en une phrase, professeur.
Non, je crois que les gens, on a besoin de retrouver la sérénité sur l'organisation du processus lui-même. Parce que je suis d'accord avec tous ceux qui disent que le débat sur la rivalité entre l'Assemblée nationale et le Sénat cache en vérité une grosse difficulté d'un avenir électoral apaisé. Et comme le président de la République a déjà donné l'intention qu'il faut chercher un consensus sur le processus électoral et aussi sur le calendrier électoral, moi je pense que c'est le moment de mettre la pression sur la CENI. Parce que c'est la CENI qui répond du calendrier électoral. Il ne faut pas que la CENI se cache derrière les forces politiques, sinon alors là il n'y a pas d'avenir en tout pour tout.
Professeur Philippe Bioya, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes analyste politique et vous avez aidé les uns les autres à pouvoir encadrer également les débats autour de cette loi portant répartition des sièges aux élections municipales et locales qui a été rejetée en seconde lecture au Sénat alors qu'il avait été adopté à l'Assemblée nationale. Et pour l'information de ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, le Sénat vient de convoquer encore une autre session de 3 jours pour régler une fois pour toutes cette matière. Merci beaucoup, professeur. On dit également merci à tous ceux qui ont participé à ces débats citoyens. Le rendez-vous est pris pour demain dans un autre numéro et échange et partage. Voilà, donc on n'oublie pas notre ami qui a en fait assuré la mise en monde du Police Kapanga, voilà, qui a assuré la mise en monde de ce programme. Et Pierrot et la Mégie a réalisé cette émission qui a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo. À très bientôt.